franceinter.fr.
Quand l'homme prend toute la place au soleil, les mammifères du monde entier se réfugient dans la nuit. Une étude sur l'impact des activités humaines aujourd'hui à la une de la science.
Arrête tout noir !
Ta gueule !
Ta gueule !
Allez, dépêchez-vous, la nuit va se vautrer.
Ça va être tout noir !
Ta gueule !
Ça va être tout noir !
Ta gueule !
Ta gueule ! Ça va être tout noir !
Un extrait du film Rrrr, cher à Fanny Beauhuon, pour évoquer cette étude parue dans la revue Science en fin de semaine dernière. En étudiant les comportements de plus de 62 espèces, une équipe internationale de chercheurs montre que lorsque l'homme est présent sur un territoire, les mammifères concentrent la grande majorité de leurs activités la nuit. Alors qu'en son absence, ces animaux sont parfaitement diurnes. Un refuge, mais une adaptation forcée qui n'est pas sans conséquences. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui, Daniel, nous sommes avec Pierre-Henri. Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de l'évolution. Alors, quand on commence par citer ces animaux, on a les léopards du Gabon, les lions de Tanzanie, les éléphants au Kenya, les ours bruns en Alaska, beaucoup de gros prédateurs. Ça veut dire que l'homme a gagné la guerre de territoire contre ses grands concurrents ?
Ah ben ça, il n'y a pas de doute. Hein. Il a commencé il y a longtemps. Je ne sais pas. On ne sait pas si les mammouths sont éteints du fait de l'action humaine ou si jamais ils ont réussi à faire ça tout seuls. Mais en tout cas, dès le début, je pense que les humains et les gros animaux n'ont pas coexisté sainement, sauf quand les humains arrivaient à domestiquer les animaux en question.
Mais est-ce qu'on peut dire que la nuit est le dernier recours ?
Il reste deux recours. Les zones où il n'y a pas d'humains, il en reste encore quelques-unes. Et puis la nuit, et effectivement, on constate que la proportion d'activité nocturne augmente considérablement. Alors c'est variable selon les espèces, mais qu'elle augmente considérablement chez un grand nombre d'espèces, plutôt plus chez les plus grosses, mais un peu chez tout le monde. Et évidemment, on va parler des ours et tout ça parce que c'est ce qui frappe le plus l'imagination, mais c'est vrai aussi pour des souris et pour des tas de trucs beaucoup plus petits.
Alors oui, moi je voulais parler des éléphants d'abord parce que c'est des animaux qui ne sont pas du tout adaptés à la vie nocturne. Et là, on voit que autour de certaines zones, ils peuvent concentrer jusqu'à 90% de leur activité la nuit. Ça implique quoi à long terme ? Ils ne voient pas bien la nuit, tout simplement.
Alors, ça implique deux choses, ça implique beaucoup de choses. Hein. On va pas pouvoir faire la liste complète, parce
bien
que vu la complexité du fonctionnement des systèmes écologiques, dès que vous changez le comportement d'un truc aussi gros qu'un éléphant, vous allez agir sur tellement d'éléments que c'est pratiquement impossible d'ailleurs de tout prévoir. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que ça va diminuer l'efficacité de la survie et de la reproduction de ces éléphants, qui n'ont pas besoin de ça étant donné ce qu'on leur fait déjà. Ça va provoquer une sélection en faveur des individus qui sont les plus aptes à se débrouiller la nuit. Donc on peut imaginer effectivement que progressivement les populations évoluent pour augmenter leur efficacité, leur vision nocturne, un certain nombre d'olfactions, etc. Donc il y aura une évolution, mais cette évolution, il faut bien voir que toute évolution due à la sélection a un coût. C'est-à-dire que on dit on sélectionne, et sélectionner c'est éliminer ceux qui n'y arrivent pas. Et éliminer ceux qui n'y arrivent pas, c'est non seulement perdre des individus, ce qui, dans le cas des éléphants, est embêtant parce qu'on est déjà souvent en situation limite sur le plan des effectifs, mais aussi perdre de la diversité.
Le fait qu'ils soient moins nombreux et que cette nouvelle pression de sélection s'exerce, est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile de s'adapter quand on est une petite population ?
Exactement. Plus les populations sont petites, c'est quelque chose que Darwin avait largement remarqué et sur lequel il a beaucoup insisté, plus une population est grande, plus elle possède en son sein de diversité et plus du coup elle va pouvoir réagir à des difficultés en termes de sélection. C'est-à-dire que c'est quelque chose de bien connu chez les enseignants. Vous savez, quand vous sélectionnez, faut pas sélectionner sur trop de critères en même temps. Vous voyez, si vous cherchez le type qui est vachement bon en maths, mais aussi en chinois, et puis aussi très bon en piano, et puis en saut à la perche, très rapidement, vous n'avez plus personne. Donc c'est un peu la même chose avec les animaux. Si jamais vous essayez de sélectionner sur énormément de critères, et c'est ce qui se passe actuellement, on a le changement climatique, on a les changements d'utilisation des terres, on a ces stress liés à la présence des humains, tout et du coup, le passage à une vie plus nocturne, et ben tout ça, ça crée des sélections. Et évidemment, la proportion d'individus aptes à survivre à tout ça risque de devenir trop faible. Donc, on a déjà des problèmes démographiques dans beaucoup d'espèces d'animaux et en particulier de mammifères. Évidemment qu'on est en train d'en rajouter une couche avec ce genre de choses.
Axel.
Pierre-Henri Gouillon, est-ce qu'on peut pas imaginer que les animaux qui avaient déjà trouvé refuge dans la nuit pour fuir ces grands prédateurs vont disparaître ou alors vont retourner à une vie diurne?
Alors, les animaux qui... Alors, premièrement, il n'y a pas que des prédateurs qui shiftent vers la nuit.
Beaucoup dans l'étude, quand même.
Oui, mais il y en a... Enfin, bon, j'ai l'impression que l'effet est encore plus fort chez les herbivores que chez les prédateurs dans l'étude. Hein. Donc, a priori, ça ne devrait pas avoir un effet si grave que ça pour ceux qui étaient déjà là la nuit, parce qu'ils vont se retrouver effectivement plus en contact avec des prédateurs, mais il y aura aussi plus de proies. Donc, l'effet est difficile à deviner, disons.
Hein. Est-ce qu'on sait en combien de temps un changement de comportement comme ça se traduit dans les gènes? Je veux dire, est-ce que la sélection opère au bout de 2-3 générations, ou on peut déjà le voir? Les auteurs l'ont peut-être cherché, d'ailleurs.
Non, je ne pense pas que les auteurs aient les moyens de chercher ça. Les auteurs n'ont pas étudié les animaux en question. Ouais. Hein. Ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré un très grand nombre d'articles étudiant les comportements des animaux. Et sur ce très grand nombre d'articles, qui représentaient effectivement tous les continents et les 62 espèces, si ma mémoire est bonne, et puis un très grand nombre d'écosystèmes, eh bien, ils ont constaté cette tendance forte et systématique. Donc, la vitesse d'évolution, franchement, on ne peut pas la connaître. Mais si jamais vous avez, comme il y a certains cas, moi j'ai trouvé incroyable, comme les antilopes, hein, ces hippotragues qui sont passés pratiquement d'un mode de vie diurne à un mode de vie nocturne, parce que dans certains cas, c'est juste des individus qui passaient la moitié de leur temps de veille le jour et puis l'autre moitié la nuit et qui shiftent un petit peu, mais il y en a d'autres, c'est vraiment, ils passent de diurne à nocturne. Dans ces cas-là, il est clair que dès la première génération, peut-être vous allez pouvoir voir une amélioration de leur vision nocturne, ne serait-ce que parce que vous allez éliminer vraiment les individus qui ont une mauvaise vue nocturne, et puis c'est tout.
Une dernière question, une minute, Axel, pour conclure.
Oui, c'était très rapidement. Est-ce que, par exemple, des lions pourraient devenir noirs avec un pelage sombre pour pouvoir chasser la nuit d'ici 200, 300 ans?
S'il reste
des lions.
Non, mais les lions chassent déjà la nuit.
Ouais.
Et je pense que la nuit, c'est pas très grave de pas être noir, hein, sincèrement.
Vaut mieux être rapide déjà pour chasser.
Je crois que avant que le pelage change, ce qui changera, c'est la vision nocturne et puis un odorat encore plus fin. Oui.
Je voulais juste ajouter une petite chose. À l'époque de la domination des dinosaures, on sait que les quelques mammifères qui vivaient sur la Terre étaient nocturnes, car c'est la seule place qu'ils avaient trouvée dans les écosystèmes.
Nos ancêtres, donc.
Voilà, nos ancêtres. On est des mammifères, et est-ce qu'on n'est pas un peu devenus des dinosaures?
Voilà, on est devenus des dinosaures, des mammifères actuels. Enfin, heureusement, pour le moment, on n'est pas retourné à une quantité de mammifères aussi faible que celle de l'époque, mais effectivement, la question se pose de savoir à quelle vitesse les extinctions vont continuer, et à quelle même continuer, pas seulement continuer, mais accélérer. On sait que la vitesse d'extinction va accélérer, et je pense que c'est vraiment préoccupant de voir comment les humains actuellement ne savent pas gérer ces questions.
Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des trous noirs, on en connaissait des gros, des petits. Et bien maintenant, on en connaît un de masse intermédiaire. Loin d'être anodine, la découverte de ce nouveau type de trou noir à 150 millions d'années-lumière de la Terre ravit les astrophysiciens. L'équipe internationale de chercheurs qui l'a découvert, impliquant l'IRAP et l'Observatoire astronomique de Strasbourg, estime que ce trou noir de masse moyenne jamais observé auparavant permettra de mieux comprendre l'évolution de ces corps célestes mystérieux qui peuvent atteindre jusqu'à des milliards de fois la masse de notre Soleil. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, certains jeux vidéo peuvent rendre dépendants les joueurs récurrents. L'OMS précise que cette forme d'addiction se manifeste entre autres par un détachement du joueur de son entourage, priorisant le jeu vidéo aux autres activités journalières, ainsi que par une augmentation du temps alloué au jeu alors que les conséquences négatives s'accumulent. De leur côté, les représentants de l'industrie du jeu vidéo déplorent que les études plus positives sur le sujet n'aient pas été prises en compte par l'OMS. Affaire à suivre, donc. Donc, peut-on parler de mini-séisme lorsque les supporters mexicains ont sauté de joie après le but de leur équipe contre l'Allemagne dimanche dernier? Bien que les ondes aient été enregistrées par les sismographes à Mexico au moment du but, les scientifiques réfutent le terme de mini-séisme. Le sismologue Samuel Auclair, que nous avons contacté, nous rappelle qu'on parle de séisme lorsqu'une rupture a lieu au niveau d'une faille en profondeur et que l'onde se propage jusqu'en surface. Dans le cas de l'explosion de joie mexicaine, le tremblement était bien plus localisé, une chose chose est sûre, à défaut d'avoir fait trembler la Terre en profondeur, ce but aura fait vibrer tout un pays à l'unisson.